Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire en Ituri. Les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, CODECO en sigle, et la force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, se sont rapprochés depuis quelques jours de Bounia, chef-lieu de l'Ituri. Une faction de la CODECO a installé son bastion à Ezekere, à moins de 10 km de Bounia, à partir duquel ils font des incursions dans certains villages. Les miliciens de la FPIC, eux, ont également progressé depuis ce week-end jusqu'à Lengabo, à moins de 5 km de l'entrée de la ville de Bounia. Leur présence inquiète les habitants, dont certains ont fui à Bounia. La population redoute l'infiltration des hommes armés dans la ville. Du côté des autorités provinciales, le commandant urbain de la police assure que la situation est sous contrôle, appelant la population locale à vaquer librement à ses occupations. Comment analyser cette situation alors que beaucoup de ces groupes armés ont adhéré au processus de paix initié depuis quelques mois par le président de la République en faveur des éléments des groupes armés candidats à la démobilisation dans la partie est de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 12 septembre 2022. Participe au débat, lieutenant Jungongo, il est porte-parole des FRDC en Ituri. Lieutenant Jungongo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Kapi.
Christian Outeki, membre de la société civile de l'Ituri, il est responsable du G5, groupe des 5 communautés, victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. Christian Outeki, bonsoir.
Bonsoir madame les journalistes.
Et Chobert Aguenonga, professeur à l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo. Il est spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et sociologie militaire. Il est aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Professeur Chobert Aguenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux auditeurs des Radio Kapi à réagir au thème de ce soir. Gabriele Kualanga, comment pourrait-on expliquer ce rapprochement de ces miliciens près de la ville de Bounia? Pourtant, la province de l'Ituri est dirigée par les autorités militaires. Je trouve qu'il serait mieux que le régime d'état de siège soit aboli parce que l'armée n'arrive pas à pacifier ce territoire qu'il est censé sécuriser en dépit de la mesure d'état de siège. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, en Ituri, les miliciens de la CODECO et du Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC en sigle, sont visibles depuis une semaine avec leurs armes aux alentours de Bounia. Comment se présente la situation dans la ville de Bounia? Isaac Remoyope nous en parle avec Blaise Ndongala.
Bonjour Isaac Remoyope.
Bonjour Blaise Ndongala.
Comment justifier la présence des hommes armés proches du chef-lieu de la province de l'Ituri?
Selon des sources concordantes, les miliciens des différents groupes armés circulent librement dans plusieurs agglomérations de la province depuis la signature de l'acte d'engagement pour la cessation des hostilités par leurs leaders. Certains groupes armés ont même rejoint leurs anciennes bases d'où ils avaient été délogés par les FARDC. C'est le cas de la faction armée pour la libération du Congo ALC CODECO qui s'est installée à Ezekere, une localité située aux escarpements du Mont Bleu à moins de 10 km de la ville. Même constat du côté de la milice Front Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC qui a progressé depuis vendredi dernier jusqu'à Lengabo à moins de 5 km de la ville de Bounia. Certains miliciens de la force de résistance patriotique et intégrationniste pays ont également quitté leur site de précantonnement d'Azita à 5 km de Geti et sont arrivés la semaine dernière jusqu'au village de Ngadjo et Kombokabo, environ 20 km de Bounia.
Pouvez-vous nous dire la manière dont la population à la périphérie de la ville et à Bounia centre est en train de vivre la présence de ces miliciens.
Les habitants semblent être pris en otage par ces miliciens et ne manifestent aucune réaction de peur d'être tués ou agressés. Mais ils déplorent des violences commises par ces hommes armés. Le mardi dernier, les assaillants de la faction ALC Codeco ont érigé une barrière à Cotoni, qui est un village situé à 18 km au sud de Bounia, sur l'axe Bounia-Kassegni, au bord du lac Albert. Ils exigeaient de l'argent à tous les conducteurs de véhicules. Ils ont été délogés par les FARDC après quelques heures et ils ont rejoint leur base à Ezekere. Le trafic qui a été suspendu a repris sur ses tronçons après les opérations militaires. Vendredi, ils ont encore fait incursion à Nyamamba où deux personnes ont été tuées et une autre blessée. Dimanche, ils ont pris en otage le chef de village de Mbeti, affirme des sources de sécurité. Toujours à Lengabo, des miliciens du FPIC ont sillonné vendredi dernier avec leurs armes dans les avenues, ce qui a créé la panique. Certains habitants ont fui au centre-ville de Bounia sous l'encadrement de la police. Donc, ce samedi, ils ont forcé des habitants de Lengabo à s'adonner à Salongo, ces travaux d'utilité communautaire. Donc, la population de Bounia, surtout dans les quartiers périphériques Kindia et Oro, vivent dans une psychose et redoutent l'infiltration de ces hommes armés.
Entre-temps, Isaac, quelle est la réaction de l'armée et de la police nationale face à cette situation de sécurité?
Blaise Nongal, il faut dire que le commandant de la police en ville rassure qu'il n'y a pas d'infiltration de ces hommes armés dans son entité, car toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de la population. Il demande aux habitants de garder le calme et d'évacuer librement à leurs occupations. De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri déclare que les services de sécurité sont en alerte pour sécuriser la population de Bounia. Toutefois, il exhorte les groupes armés à respecter leur acte d'engagement, sinon ils seront traqués par les FARDC. Mais d'autres sources de l'armée déclarent que les militaires ont reçu l'ordre de ne pas réagir aux provocations des groupes armés pour ne pas compromettre le processus de paix en cours.
Merci beaucoup, Isaac Remoyope.
Je vous remercie, Blaise Dongala.
Lieutenant Jules Ngongo, je rappelle que vous êtes porte-parole des FARDC en Ituri. Plusieurs groupes armés entourent la ville de Bounia. La population est inquiète et elle redoute l'infiltration de ces hommes armés dans la ville. Comment on peut expliquer cette présence des groupes armés autour de la ville de Bounia?
Merci beaucoup, madame. Laissez-moi d'abord circonscrire les cadres de ces membres de groupes armés qui se retrouvent tout autour, comme le monsieur a décrit la situation. Vous savez, un sujet hors contexte, c'est un prétexte. Parce que là, nous sommes dans un contexte où les groupes armés, ceux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État pour participer aux efforts de la paix, ont signé des actes unilatéraux de sécession, des hostilités, d'attaque contre la population et de s'attaquer aux forces armées. Nous sommes là dans cette logique-là qui, jusqu'à aujourd'hui, a permis la population de circuler librement dans tout le réseau routier de la province de l'Ituri. De la RN27, de la RN4, de Bounia Mungwalu, de Bounia Kaseni, de Bounia Komanda. Aujourd'hui, suite aux opérations que nous avons menées, mais aussi à la réponse de l'appel du président de la République par le milicien, cela a fait à ce que nous soyons dans ces contextes. Et si, parlons de cas, vous parlez de la ANC, ce sont les résiduels, vous le savez bien, madame, ils n'ont pas érigé le barrière sur cette route, ils ont tenté d'ériger. Aussitôt informés, les forces armées n'ont pas hésité de chasser, de poursuivre ces hommes et ils sont rentrés dans leur lieu de regroupement dans le cadre du processus. Et les lieux est où? Les lieux est de vers Kambuto, Ezekere, Peni, c'est loin. C'est loin parce que
10 kilomètres, c'est pas si loin.
Les lieux de regroupement.
10 kilomètres, c'est pas si loin que ça, lieutenant Jungongo.
Pardon?
10 kilomètres, Ezekere, c'est à 10 kilomètres de la ville de Bounia, c'est pas si loin que ça.
Madame, nous avons, mais vous savez pas que Vous savez pas que l'engabo y a eu des combats au mois de avant l'état de siège, il y a eu des combats là-bas l'engabo, parce que ne pensez pas que ces miliciens proviennent de l'Ouganda, proviennent de n'importe où. S'ils sont pas en tenue ou ils n'ont pas d'armes, vous allez jamais les reconnaître, madame. Ce sont le fils et le fille du coin qui habitaient d'ailleurs certains coins, et ils ont rejoint le maquis. Et lorsque on a conquis et on a pacifié, on a étouffé la menace qui pesait sur la ville de Bounia autrefois, aujourd'hui, comme ils sont dans le processus, ils semblent être dans leur milieu naturel. Mais nous ne pouvons pas. Ce que vous devez savoir, madame, ces gens n'ont pas, dans leur acte d'engagement, ils peuvent pas se déplacer en mouvement, c'est-à-dire en formation, pour signifier c'est comme quelque chose organisé.
Alors le cas qui s'est passé la semaine passée, pas loin de Bounia, ces miliciens ont fait des incursions dans certains villages périphériques au centre-ville de Bounia. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur acte d'engagement. Dans ce cas, vous, autorité, vous faites quoi?
À chaque fois, c'est là qu'ils sont dans le processus. Ils font pas l'incursion dans un contexte où il faut faire l'incursion ou bien faire l'incursion, venir attaquer, piller. Non, madame. Nous devons être clairs dans ce sens. Je suis en train de vous dire, nous sommes dans un contexte où ces miliciens ont signé l'acte d'engagement, et ce sont pas des gens qui viennent de Rutshuru, ils viennent de Kasumbalesa. Non, ce sont les enfants du milieu. Ils savent bien leur milieu. Et alors, lorsque ils dérapent, ça, ce sont des dérapages dans un processus, ça peut arriver. Mais nous, les forces armées, nous sommes à notre poste du devoir. D'ailleurs, c'est ce qui a permis que nous puissions étouffer toutes les velléités de ces dérapages-là envers nos populations. Et tout de suite, là, le PEM sillonne 24 heures sur 24 heures pour répondre à toutes les éventualités de ces miliciens signataires d'actes qui dérapent par rapport à la raison qu'ils connaissent. Et donc, c'est là qu'ils pensent que la ville est infiltrée, et où il y a la psychose. Madame, je vous dis, c'est une psychose virtuelle, c'est une psychose artificielle organisée par des gens pour leur intérêt. Alors d'ici, d'ailleurs, je prends en témoin tous les motards qui travaillent la nuit, appelés hibou. Ils savent, ils sillonnent 24 heures sur 24 heures. Il faut leur poser cette question. Ils sont libres. Ça, ce sont des psychoses. D'ailleurs, la psychose que nous qualifions de virtuelle, parce que les forces armées mènent le patrouille des combats tous les jours, pédestres, motorisés, diurnes, nocturnes, tous les jours, pour répondre à toutes ces éventualités. Et d'ailleurs, c'est depuis l'instauration de l'état de siège qu'aujourd'hui la ville de Bounia respire une ère de paix et dans toute tranquillité.
Et donc, toute cette population, tous ces habitants des villages environnants qui fuient pour se réfugier à Bounia n'ont pas raison de le faire. Ça aussi, c'est virtuel, c'est une psychose virtuelle.
Non, ça, je ne l'ai pas dit ça, madame. Ici, le contexte, ce n'est pas l'incursion, parce que les groupes armés se sont décidés de venir attaquer la ville et que nous on est là. Non, ce n'est pas ça. Non. Le problème ici, si vous voyez quelqu'un, un ancien rebelle, ou il est rebelle, comme nous le disons, ce sont les miliciens, et que vous les voyez soit les autres avec une machette ou une arme, mais ça peut que faire peur à la population. Mais nous disons, nous sommes à côté d'eux, c'est parce que c'est comme ça, nous disons, étant donné nous sommes dans ces processus, et que eux, ils doivent respecter de rester dans leurs activités latentes, comme le gouverneur militaire, lieutenant général Louboya, le conseille, et que ils doivent retourner dans leurs activités dans l'attente du processus PDDRCS. Et leur présence, ça peut faire peur. C'est comme ça, nous disons que n'ayez pas peur. On est là. Les patrouilles sont là. Là où ils ont essayé d'inquiéter la population, nous avons agi de manière prompte et efficace. Et aujourd'hui, la route Bounia-Kasséni, madame, tout le monde passe, parce qu'ils ont voulu oser d'ériger des barrières là-bas. On les a pas donné une seule seconde, madame. Et donc la population n'a pas aussi tort, mais nous disons à notre population, n'ayez pas peur, soyez calme, ayez confiance aux forces armées parce que nous travaillons pour leur intérêt et que la ville de Bounia, je dis bien, la ville de Bounia est hors menace ennemie parce que le contexte a changé.
Christian Oteki, vous êtes membre de la société civile de l'Ituri et responsable du G5, groupe de 5 communautés victimes des atrocités des groupes armés dans cette province. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du lieutenant Jules Ngongo lorsqu'il dit que la ville de Bounia est hors menace ennemie?
Non, madame, d'abord je voudrais saluer tous les co-débatteurs ainsi que toute la population qui nous suit à l'instant. Tout à ne pas être d'accord, parce que je suis pas d'accord avec les propos de lieutenant Jules Ngongo, parce que d'entrée de jeu, vous constatez avec nous que lieutenant Jules Ngongo est passé aux aveux les plus complets. Il avoue que la ville est infiltrée. Il avoue que les alentours de la ville est à ce jour contrôlé par les groupes armés. Il accepte que l'Engabo est entre les mains des groupes armés, bien que pour lui, il minimise les faits sous prétexte que ce sont des affaires de milliers qui auraient gagné leur millier et qui sont dans leur millier naturel. Il minimise en même temps aussi la présence des groupes Codeco au niveau des équerres qui à quelques kilomètres de la ville de Bounia. Et pourtant, Ezekere était une zone évidemment qui a été occupée par les éléments de Codeco, mais quelques temps plus tard, les FARDC avaient chassé les Codeco de cet endroit, mais aujourd'hui abandonné, les Codeco a repris. Parce que sous d'autres cieux, nul n'ignore que il y a une année, les éléments de Codeco, bien entendu, de ce groupe ALC, ont fait incursion dans la ville de Bounia. Ils sont arrivés dans la ville de Bounia, mais à provenance de Zéquer, ils sont arrivés, ils ont menacé toute la population. Et ce qui se passe à ce jour, les quartiers comme les milieux comme Lengabo, qui est à 5 km de la ville de Bounia, les quartiers comme Delé, les quartiers comme la police des frontières, les quartiers Kindia, les quartiers Yambi, les quartiers Similabo, sont des quartiers qui sont en proie de ces groupes armés. Aujourd'hui, l'infiltration est réelle. Parce que si l'État Jules Ngongo prétend que la population circule librement dans la ville de Bounia et qu'on puisse poser la question aux éléments, soi-disant des taximens appelés communément hibou, mais il n'y a pas de hibou, il n'y a pas de gens qui circulent dans la ville de Bounia la nuit. C'est vrai qu'il n'y a pas le couvre-feu. Dans la ville de Bounia, depuis qu'on a décrété l'état de siège dans la province de Ituri, je ne sais pas si une fois on a eu à prendre une mesure de couvre-feu telle que l'armée boucle un endroit, l'armée contrôle le mouvement de la population. Là, Jules Ngongo a raison, parce qu'il sait pertinemment bien qu'il n'opère pas. Il n'y a pas de patrouille pour contrôler la ville de Bounia. Ce qui est réel est que la population aux alentours de la ville de Bounia, beaucoup de gens à Lengabo ont fui, beaucoup de gens dans les quartiers de l'Est, au quartier Kindia ont fui, et pour preuve, non seulement que ces groupes armés, parce qu'on fait forcément mention de deux groupes armés, FPIC et ALC, mais il y a quelques jours, les éléments de FRPI et les éléments de FPIC se battent, mais ce combat a tendance de quitter la brousse et de s'installer dans la ville. Ce combat a tendance de quitter la brousse et s'installer dans la ville. Il y a deux petits matins, quelques notabilités, dont les députés provinciaux, une députée provinciale, un député national, qui sont originaires de Walen Dubindi, qu'on peut prétendre pour qui la milice FRPI pourrait être de cette origine-là, ont subi des attaques présumées. Il y a un garde du corps de la députée provinciale qui a été tué dans la ville de Bounia. Et lorsque on quitte même ce terrain de la ville, on va dans d'autres agglomérations, de grandes agglomérations. Les entités comme Tchomia, l'endroit comme Tchomia, à 5 km de Tchomia, Codeco entoure Tchomia de tout bord. Si on part dans d'autres endroits, il y a plusieurs milliers de grandes agglomérations où sous l'acte d'engagement prétendu, l'armée n'emmène aucune initiative militaire contre les groupes armés, mais au même moment, les groupes armés attaquent la population, ils tirent, ils érigent les barrières sous peu, sous quelques jours. les éléments de ALC ont érigé les barrières, une barrière où ils ont perçu de l'argent pendant à peu près 2-3 heures de temps sur la route. Tous les passants, les motards payés dans les 1000 à 3000 francs congolais, ni c'était l'intervention d'un général de FARDC qui était de passage. C'est pas pour autant dire qu'il y avait une intervention militaire. Ce général qui était de passage, et c'est lui qui est venu remettre les paix, l'ordre d'ailleurs fait partie de ces éléments qui étaient en train de prier la population, mais de saccager.
On ne peut pas, il n'était pas seul ce général, il était sûrement accompagné de ses hommes. Donc l'armée a quand même réussi à déloger ces miliciens qui dérangeaient la population.
On pourrait comprendre que c'était une opération militaire où on a envoyé une brigade, on a envoyé des unités combattantes pour aller les pourchasser, pour aller les enlever de là. Mais c'était un militaire, un général qui était de passage. C'est vrai, il n'était pas seul, il était accompagné avec ses hommes. Mais c'est anormal. On pense que les actes d'engagement signés par ces miliciens sont des actes qui peuvent faire foi. Non, pas du tout. Avec ces actes, ce sont des actes que nous qualifions tout simplement de trompe-l'œil. Des actes qui jettent de la poudre aux yeux dans le chef des autorités, des actes de distraction purement et simplement pour la simple raison que ces miliciens n'obtempèrent ou ne respectent nullement les actes d'engagement.
Alors ces miliciens qu'on qualifie d'enfants du milieu, d'enfants du Touri par les autorités provinciales, qu'est-ce qui pousse ces enfants du coin à prendre des armes, Christian Outeki?
Madame, un enfant qui soit-il, lorsqu'il prend les actes contre la République, lorsqu'il prend les actes contre la population, il cesse d'être un enfant qu'on doit dorloter. On doit lui appliquer les règlements, on doit lui appliquer la loi. Et pour les cas échéants, on doit lui appliquer la force. Pour les cas de notre province, on les dorlote au contraire. À mon avis, à ce jour, je crois que la ville de Bounia doit être sécurisée parce que les autorités doivent remettre l'ordre, sécuriser la ville, non seulement la ville, mais sécuriser la périphérie de la ville, sécuriser d'autres entités en province, parce que toute la province de l'Ituri actuellement, même si on peut prétendre qu'il y a des actes d'engagement signés par les groupes armés, il n'y a pas d'accalmie.
Professeur Chobert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, université catholique du Congo, vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Vous êtes également chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Comment vous analysez cette situation, professeur Aguenonga?
Je voudrais remettre le débat au centre au regard de dynamiques qui sont survenues ces derniers jours. Et à ce titre, des éléments importants méritent d'être soulignés. Le premier élément est le fait que l'armée est restée permissive. L'armée a assisté impuissante face d'une part à des affrontements ayant opposé des milices rivales membres d'un certain nombre de communautés. Il s'agit de la FRPI et de la FPIT, pour ne pas les désigner. Et le mouvement qui s'observe ces derniers temps autour de Lingabo serait en réalité une expédition punitive de la FRPI qui résulte des conséquences des conflits qui l'opposent à la FRPI, et selon certaines informations, il s'agit tout simplement d'une représaille contre les membres de la communauté dont la FRPI est ici, et c'est la raison pour laquelle cette milice se dirigerait vers le quartier Kindia. Et en même temps, sur le deuxième élément que je voudrais souligner ici, c'est le fait que Ezekiel a toujours été le bastion de l'ALC, donc c'est la faction de la CODECO qui avait fait irruption dans la ville de Bounia le 4 septembre 2020 sous les yeux impuissants du commandant en région militaire, du commandant de la 32e région militaire, sous les yeux impuissants du commandant secteur opérationnel de l'Ituri et sous les yeux importants de tous les officiers généraux et supérieurs de FRDC. Donc, eu égard à ce qui précède, je pense qu'un certain nombre de leçons doivent être tirées. La première leçon tient principalement à la faiblesse de la chaîne de commandement en Ituri. C'est ce que nous avons cessé de dénoncer depuis longtemps. En fait, les responsables militaires de l'Ituri n'ont jamais réussi à mettre sur pied un plan de dissuasion permettant à l'armée évidemment de maîtriser pleinement la situation. Et si l'on s'en tient au discours du porte-parole de l'armée tout à l'heure, l'on constate que l'armée n'est pas proactive, l'armée est restée défensive. La deuxième leçon, c'est que il y a pratiquement l'absence du plan de DDR, eux-mêmes de moyens, et pour la mise en œuvre, vous savez que toutes les milices de l'Ituri, commençant par la FFPI, qui a signé un accord de paix depuis le 28 février 2020, mais cet accord de paix peine à être mis en œuvre. Ce qui a rapidement donné lieu à des dérapages, et aujourd'hui, tout laisse à croire que le gouvernement ne dispose ni de plan, ni de moyens pour la mise en œuvre des plans de désarmement, ce qui laisse libre cours à l'activisme des bandes armées.
Mais par ailleurs, je voudrais aussi
faire mention de la déficience de moyens logistiques. Ça, c'est le constat qui ressort régulièrement sur le terrain. Le militaire n'a pas suffisamment de moyens. L'armée n'a pas les moyens pour intervenir efficacement, ce qui permet aux miliciens de créer la diversion.
Professeur Chobert Aguenunga, certains groupes armés ont signé des actes d'engagement unilatéraux. Est-ce que l'armée devrait attaquer ces groupes armés qui ont signé ces actes d'engagement lorsque ils dérapent, comme l'a dit le lieutenant Jules Ngongo? Ou bien il faut préserver la paix recherchée par les autorités du pays?
Je pense que la seule approche militaire, ce n'est pas quand même une leçon de morale qu'on doit donner aux militaires. Lorsqu'on est dans une situation de guerre, il faudrait développer la stratégie « fight and talk ». C'est-à-dire le dialogue n'exclut pas que l'armée utilise les pressions militaires. Et c'est le fait que l'armée est restée passive, le fait que l'armée a baissé le bras, il n'y a pas eu de pression militaire d'envergure. Vous l'avez remarqué, et c'est ce qui donne l'impression aux groupes armés que, évidemment, les unités qui sont déployées sur le terrain n'ont pas la possibilité, évidemment, de le maquiller. Et je vais rappeler que, vous savez, au départ, la CRODECO avait signé une série, d'ailleurs, d'actes d'engagement qui n'ont pas été mis en œuvre. Ensuite, le chef de l'État a décrété le cas de siège, qui voudrait dire que l'armée devrait utiliser la force, n'est-ce pas, pour mettre un terme à l'activisme des bandes armées. Mais là, une fois de plus, l'armée a échoué d'imposer la paix par la force. Ensuite, on revient encore à la case de dialogue pour dire qu'il faut négocier. Donc, il y a une absence flagrante d'une approche cohérente de sécurité, ce qui fait que la situation sécuritaire ne cesse de s'enliser. Donc, le fait que les miliciens aient signé les actes d'engagement, et j'en profite pour dire que ce sont des actes d'engagement unilatéraux. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'un accord ou des accords qui lient deux parties, mais un acte d'engagement unilatéral qui peut ou ne pas être mis en œuvre. Mais est-ce qu'il faudrait compter sur les actes d'engagement unilatéralement signés par les bandes armées pour ramener la paix à Ituri? La réponse est bien évidemment non.
On va prendre ces nombreux auditeurs qui sont nombreux à nous appeler sur notre standard, ces nombreux auditeurs qui veulent faire entendre leur voix, qui veulent donner des propositions. On va se rendre pour ce faire à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet auditeur.
Je suis Diomède Meshak Moussagadoupa depuis la ville de Goma. Comment peut-on comprendre que dans une province ou état de siège, de telles barbaries peuvent se faire entendre? Finalement, nous demandons, nous sommes dans quoi? Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour lancer des offensives et de mettre la main sur la loi? Il n'y a que chez nous un défi où les rebelles qui avaient déjà commis des crimes, massacres, exercent une pression sur le gouvernement afin d'obtenir gain de cause par rapport à leurs propres intérêts économiques. Je crois que ce gouvernement devrait nous éclaircir sur l'ambiguïté autour de la situation sécuritaire en RDC avec les groupes rebelles.
Lieutenant Jules Ngongo, vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de Jomez Mouchagaloussa qui nous appelait depuis Goma. Lieutenant Ngongo, Jules Ngongo, comment vous répondez très brièvement à cet auditeur?
Je n'ai pas bien capté, madame, si...
Alors, cet auditeur...
Vous avez reconnu que...
Cet auditeur dit ne pas comprendre que dans une province sous état de siège, de telles barbaries peuvent se commettre encore. Il se demande qu'est-ce qui manque à l'armée de mettre la main sur ces hors-la-loi puisqu'ils ne respectent pas les actes d'engagement.
Oui, madame, nous arrêtons. Nous arrêtons, vous le voyez tout le jour, nous sommes en train d'arrêter et le membre de groupes armés étrangers et même de groupes armés locaux, ceux qui sont... dans le processus, lorsqu'ils dérapent, ils ont le feu. Le prof l'a reconnu que ce sont des dérapages, mais nous sommes là justement pour ça, c'est pour étouffer, détruire toute forme de menace partout où cette menace peut arriver contre notre population. C'est ça notre travail. Je dis d'ailleurs que...
Le prof a dit aussi qu'on constate une faiblesse dans la chaîne de commandement.
Évidemment, je ne vais pas entrer dans ces jeux de ping-pong, mais le prof a circonscrit les cadres de ces processus. Et c'est ce que moi je voulais, parce que il y a l'évolution de la situation sécuritaire en province de l'Ituri, vous le savez. Autrefois, les miliciens étaient contrôlés les grandes agglomérations. Personne ne peut me contredire. Aujourd'hui, ce sont les forces armées qui occupent. Autrefois, les miliciens quittaient pour aller s'attaquer à la paisible population dans des sites. Mais aujourd'hui, grâce aux opérations que nous avons menées, nous avons récupéré tous leurs centres d'intérêt économique. Par exemple, d'autres sites, les carrés miniers, aujourd'hui, la population vague lugubrement dans leurs occupations. Mais je voulais dire que Maître Christian Outé qui a juste relaté la situation de 2021, de 2020, et c'est la même situation que le prof aussi a réitéré par rapport à l'entrée, l'incursion de ALC. Parce que à cette situation, à cette époque, j'allais dire, madame, la province de l'Ituri était non-État, non-State. Il n'y avait pas l'État. C'est pour cela qu'on a mené l'état de siège pour remettre la province dans des conditions d'une province. Aujourd'hui, madame, nous sommes à notre 455 patrouilles de combat, 455 patrouilles du jour, de nuit, motorisées, pédestres, dans la ville de Bounia.
Christian Outeki vous a contredit, dit qu'il n'y a pas de patrouilles dans la ville de Bounia depuis l'instauration de l'état de siège.
Non, au moins, non, madame, ça, s'il dit ça, je doute fort que c'est un Itourien. Je m'excuse, je doute fort parce que vous pouvez demander comment il a reconnu que les motards appelés communément hibou circulent toute la nuit. Avez-vous déjà vu un motard circuler toute la nuit sans déculant? Non, il faut être quand même jusqu'à ce point. Non, jusqu'à ce point, madame, je manque le mot et je me réserve, je peux pas dire. Mais moi, je vous dis, ce sont des choses où la population de Bounia voit tous les jours. Aujourd'hui, nous avons eu les unités PEM qui travaillent en mixte, en symbiose avec les éléments de la police, avec les éléments des forces armées. Et ça, je le dis, madame, nous sommes à 455 patrouilles de combat motorisées, diurnes, nocturnes, justement pour sécuriser la ville de Bounia. Vous avez appris autrefois, on pouvait sillonner avec les têtes de personnes, de humains, on profanait ici des morts, des cadavres, ici dans la ville de Bounia, avant notre arrivée. Aujourd'hui, madame, nous vous rassurons. Et même
les choses ont changé,
mais la population elle-même voit. Oui, nous assurons notre population.
Merci.
Et que cette population d'ailleurs, elle voit ce que nous faisons et elle sait et nous demande beaucoup et nous disons nous allons faire pour que cette population vit tranquillement avec les patrouilles de combat qui ont organisé autrefois.
Merci le
que on ne boucle pas. Que nous avons jamais bouclé. Je comprends qu'il est hors contexte. C'est comme ça que j'avais commencé à dire que un sujet hors contexte, c'est un prétexte.
Christian Outeki, vous allez réagir aussi très rapidement à ce point de vue de cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani.
Jordan Saïdi, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Cette situation nous certifie que le processus de paix initié par les chefs de l'État n'a pas abouti aux résultats escomptés. Nous ne comprenons plus la quintessence de l'état de siège dans cette partie du territoire national, car c'est paradoxal d'apprendre l'installation du bastion de la CODECO à 10 km du chef de lieu de la province où les éléments de la FARDC ne sont pas acoptés au bout du doigt et sont dotés des armes. Le gouvernement congolais doit penser à d'autres mécanismes pouvant permettre de pacifier cette province qui s'est pervertie à une terre fertile des groupes armés, aux vies et aussi des services sécuritaires.
Christian Teki, que pensez-vous du point de vue de Jordan Saïdi, qui est président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile Tchopo?
Madame le journaliste, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur Jordan Saïdi. Effectivement, le chef de l'État a mis beaucoup de mécanismes pour que la paix soit restaurée dans la province de l'Ituri en particulier, ou dans tout l'Est, mais aussi dans l'ensemble de la ville du Congo. Mais ces efforts sont sapés. Mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse faire la distinction entre les groupes armés. Bien qu'on va parler de ces processus de paix étaient initiés par le chef de l'État, parce que lorsqu'on prend les groupes armés en République du Congo, principalement les groupes armés locaux, nous trouvons ces groupes armés qui combattent la République du Congo, ce sont principalement les groupes armés qui sont installés au Kivu. Mais lorsque vous prenez les cas des groupes armés qui sont en Ituri, hormis FRPI, tous les autres groupes armés sont des groupes armés qu'on peut qualifier de génocidaires, et sont qualifiés de groupes armés qui ne font que massacrer la population. Lorsque vous prenez Codeco et toutes ces factions, la cible c'est la population. Lorsque vous prenez FPIC, la cible c'est la population. Et que donc ces groupes armés, en soi, les processus de paix tels initiés par les chefs de l'État, ils ne sont pas éligibles à ces processus de paix. Ils sont déjà des groupes qu'on devrait uniquement appliquer les bateaux. C'est-à-dire la force de la République du Congo ou les forces armées de la République du Congo devraient intervenir pour les réduire au silence. Ce sont des groupes armés qui ont comme priorité les massacres de la population civile. Alors aujourd'hui, lorsque les porte-parole de l'armée minimise la FED, il dit que nous sommes dans un contexte autre. Vous trouvez à Lengabo 40 jeunes gens munis d'armes de guerre, d'armes à feu, en train de sillonner, en train de patrouiller dans la localité. Est-ce qu'on peut considérer ça comme c'est pas une menace contre la population civile pour laquelle l'armée doit maintenant se mettre en train de relancer le message de la paix? Oh non, respectez vos actes d'engagement, ne faites rien. Non, c'est pas comme ça se fait. Mais lorsque vous allez plus loin, aujourd'hui, dans l'espace de 2 mois, pratiquement, où l'armée n'opère, n'en mène aucune opération militaire, parce que les lieutenant Jim Ngong dit qu'ils appliquent les faits. Non, aucun fait. L'armée ici n'applique aucun fait. Dans 2 mois, nous comptabilisons au moins 16 militaires tués par ces militaires Codeco. Mais de 16 militaires tués, plus ou moins 217 populations civiles tués dans les 2 mois. Mais l'armée n'a mené aucune initiative offensive. C'est ce qui nous fait mal. Ce qui démontre la suffisance que l'armée est plus attentiste, l'armée est plus en train d'observer, l'armée veut que la situation s'empire davantage pour intervenir. Et là, alors, sincèrement, c'est ce qui n'est pas normal.
Lorsque
les gens vont parler de patrouille dans la ville de Bounia, je le dis, je le répète, il n'y a pas de patrouille. Lorsque vous arrivez, par exemple, au nord Kivu, il y a couvre-feu déjà 21h, pas de circulation. Mais à Bounia, il n'y a pas de couvre-feu.
Les merci Christian Teki, vous l'avez dit dans votre première intervention. Professeur, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient d'Ariwara.
Joël, depuis Ariwara dans la province de l'Ituri. La situation sécuritaire de l'Ituri n'est pas prise au sérieux, raison pour laquelle ces groupes armés se trouvent très libres de mouvement. Ils se déplacent où ils veulent et font tout ce qu'ils veulent faire. À mon humble avis, la situation sécuritaire nécessite le principe de si vis pacem qu'un parabellum. Le rétablissement de l'ordre doit passer par le feu. L'armée a le monopole de rétablir l'ordre. Ces groupes armés font l'hypocrisie de souscrire dans les processus de désarmement car, en même temps qu'ils ont signé des engagements, les massacres bat record.
Professeur, votre réaction?
Oui, certainement, mais le diagnostic sur le terrain est révélateur d'une certaine faille dans les stratégies militaires. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut recourir à la force. Mais c'est pas la seule approche, parce que même si on recourait à la force, la finalité serait le désarmement, c'est-à-dire la reddition des bandes armées. Et à ce moment, pourquoi est-ce que on n'accorde pas de l'importance au processus PDRCS? Donc, c'est le constat que nous avons fait sur le terrain. On a comme l'impression que la coordination nationale et les coordinations provinciales du PDRCS ont été mis sur place, mais jusqu'à présent, il n'y a ni plan de désarmement, ni moyen pour la mise en œuvre. Mais j'en profite quand même pour rappeler un principe important en stratégie militaire. Donc, on ne sécurise pas l'objectif dans l'objectif. C'est-à-dire, on ne peut pas sécuriser la ville de Bounia dans la ville de Bounia. Donc, les menaces qui pèsent sur la ville de Bounia tiennent premièrement au fait que la ville de Bounia n'est pas ceinturée, c'est-à-dire il n'y a pas de dispositif sécuritaire efficace qui puisse faire échec à d'éventuelles attaques sur la ville de Bounia.
Et comment sécuriser la ville, professeur?
Depuis que... Oui, alors.
Comment sécuriser la ville de Bounia et rassurer la population? Ça sera votre conclusion.
Mais absolument, je dis qu'on ne sécurise pas. L'objectif, dans l'objectif, sécuriser la ville de Bounia revient à dire qu'il faut éloigner toutes les menaces qui pèsent sur la ville de Bounia. Cela consisterait, soit si l'armée en a le moyen, elle utilise carrément la force pour neutraliser toutes ces bandes armées. C'est alors que la population de la ville de Bounia pourrait respirer de l'air frais, soit carrément il faut revitaliser le processus PDRCS. À ce moment-là, on suppose que tous les miliciens vont se rendre à l'issue de ce processus. Mais par ailleurs, il faut aussi accorder l'importance, évidemment, à la justice. Vous savez qu'à Ituri, les gens ont tellement bénéficié de l'impunité à tel point qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Donc la justice doit à son tour jouer efficacement son rôle, que tous les miliciens et tous les autres bandits de grands chemins qui ont été à la base des crimes dans la province de l'Ituri doivent être sévèrement réprimés.
Merci.
Et enfin, la diplomatie également. Je pense que la sécurité aussi à l'Ituri doit se jouer sur le front diplomatique. Vous savez que il y a d'autres informations qui montrent à suffisance que certaines bandes armées en bénéficieraient d'une certaine aurée de ramification extérieure. On voulait dire, donc la RDC doit jouer aussi sur le front en diplomatique, mais davantage couper les lignes d'approvisionnement de miliciens à l'armée et à munitions.
Merci, professeur Sober Aguenonga. Lieutenant Jun Gongo, qu'est-ce que vous dites à cette population qui vous suit en ce moment?
Merci beaucoup, madame. Nous disons à notre population que avant l'état de siège, la province de l'Ituri était non-état. Aujourd'hui, nous sommes dans une province où tous les services fonctionnent, où le mécanisme, je peux même dire que nous avons mis en place des mesures drastiques pour mettre hors d'état de nuire toute forme de menace. Et si Maître Christian parle qu'il n'y a pas des patrouilles, c'est juste du mécréanisme, ou c'est un mécréant juste parce que il veut parler d'autre chose.
Il faut
les groupes armés Zaïre,
il faut
groupes armés Codeco, le groupe armé Codeco, la milice Tinakilima, FRPI, ils savent bien que les forces armées sont à leur poste du devoir. Je voulais rassurer la population de Bounia ou tout ailleurs. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces armées ne vont jamais tolérer les dérapages de groupes armés. Parce que là où ils ont essayé, ils ont trouvé les forces armées.
Merci.
Parce que lorsque un général, il ne savait pas que si le général a eu mission pour venir intervenir, là, le maître Christian ne sait pas. Donc, vous comprenez qu'il est toujours hors contexte. Et maintenant, là, nous rassurons notre population de rester calme et la vigilance doit être déguise. Et nous demandons toujours que cette population ait confiance à son armée. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, tous les groupes armés seront neutralisés dans une approche globale, comme le prof l'a bien souligné.
Merci,
et nous sommes
lieutenant
là pour ça,
Jules
pour rassurer
Ngongo.
Notre population.
Merci, on vous a suivi. Christian Oteki, en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, en termes de conclusion, je pense que d'abord l'armée ne doit pas s'essuyer, ne doit pas prendre en considération tous les actes d'engagement signé par les groupes armés, parce que ce sont de la poudre aux yeux de jeter dans les yeux des autorités. En deuxième lieu, l'armée doit appliquer les faits. L'armée doit appliquer les faits pour obtenir la réduction forcée de tous les groupes armés. Tous ceux-là qui ont pris les armes contre les briques, ils doivent être réduits par la force de la loi. L'armée doit aussi redorer son image. Redorer son image et restaurer la confiance. Parce que si l'État Jim Bongo appelle la population à faire confiance à son armée, mais la confiance se mérite par les actes. Faut pas par les discours qu'on doit, ou les discours des autorités militaires qu'on doit, que l'armée, la population doit devoir faire confiance aux autorités. L'armée, la population doit faire confiance aux autorités par les actes palpables que l'armée a déposés. Aujourd'hui, l'ensemble de la province est contrôlée par les groupes armés. Les groupes armés se disputent pour des messages. Et là, ce message vous dit non, ça c'est tel territoire qui est sous mon contrôle.
Mais on merci. Peut pas merci.
Les groupes armés contrôlent les entités territoriales. Ça, c'est inadmissible.
Merci, maître Christian Outeki, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Merci à Donna Madimba, Martin Sebouchangré qui nous ont aidés à préparer cette émission. Jean-Claude Ciel a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.